Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Après une émission sur la construction de sa maison sur le Cos à partir des ruines d'une étable, Sylvie Baudineau, au micro du fil du fer, parlera de son métier et de sa formation. Bonjour Sylvie.
Bonjour Lionel.
Que dites-vous pour vous présenter dans la vie ?
Aujourd'hui, je dis que je suis anthropologue et anciennement et toujours un peu praticienne de l'intervention humanitaire de protection des enfants.
Nous allons un peu revenir sur l'émission précédente qui était donc sur le choix de votre habitation, la construction de votre habitation. Je n'avais pas pu poser cette question-là, mais elle rejoindra cette émission sur l'anthropologie. Qu'est-ce que déblayer, architecturer, ou c'est dur à dire, construire, vous ont fait découvrir de vous ?
Déblayer, c'était la première chose que j'ai faite, me rappelait, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, pierre par pierre, me rappelait un des travaux que j'ai fait quand j'étais jeune. Mon grand-père était fermier et viticulteur. Et c'est les travaux agricoles type vendange, c'est-à-dire, en fait, c'est un travail répétitif, quelquefois physique, avec exposé aux éléments, et qui en même temps est très méditatif, parce qu'il est répétitif, justement. Et donc, il y avait ce côté-là, dans le déblayement de ma ruine, et aussi la découverte. Enlever des pierres qui sont à terre, c'est une chose. Enlever des pierres d'un mur qui sont branlants, c'est découvrir que dans les interstices entre le mur, un mur qui fait un mètre d'épaisseur, il y a de la paille, il y a des choses comme ça. Et puis, enlever les pierres du sol de l'étable, c'est trouver des petits flacons ou des semelles de fer de brebis éventuellement, même si les brebis n'étaient pas dedans, mais trouver des outils, des vieilles choses. Donc, c'est aussi ça. Construire, c'est pas moi qui m'en suis chargée, donc reconstruire la maison, mais construire des choses dedans, ça fait partie de l'habiter pour moi. Ça a été progressif parce que je me souviens quand j'ai emménagé cette maison qui était vide, j'habitais un appartement à Lyon et j'ai amené mes affaires de Lyon et je les ai agencées comme elles étaient à Lyon. C'était comique, c'était vraiment très drôle. Et voilà, c'était ce qui m'était familier avec mes affaires familières. Mais j'habitais pas la maison vraiment, je l'occupais pas dans le meilleur du potentiel qui pouvait être celui de la maison et de mes goûts. Et c'est que progressivement que j'ai changé les choses de place, mais aussi à ce moment-là, construit ou acheté des meubles ou des étagères ou des choses pour mettre les choses que je voulais à l'endroit que je voulais, etc. Donc, en fait, la manière dont j'ai agencé les choses maintenant bouge moins. Elle bouge encore de temps en temps. J'ai eu des travaux il y a quelques années où j'ai vidé complètement la plus grande pièce de la maison. Mais en fait, j'ai tout remis à sa place. Presque. J'ai changé des sculptures, des peintures, des choses comme ça. Mais les grands objets, les grands agencements sont restés les mêmes. Mais j'ai encore changé, il y a une semaine, des choses. Je change des... Voilà. Et donc, c'est mobile ou mouvant parce que... ma pensée change aussi, enfin, c'est dynamique. Et c'est vraiment la partie de construction, d'aménagement, fait vraiment partie de l'habiter pour moi. C'est l'avantage d'être propriétaire.
Quels sont les liens que vous pourriez faire entre ce que vous venez de dire, le déblaiement, l'aménagement, et votre métier d'anthropologue ?
Aucun. Parce qu'en fait, c'est la partie faire. Alors il y a peut-être des liens à faire, mais mon métier d'anthropologue aujourd'hui, vraiment, je le comprends. Mon métier d'anthropologue, il est de comprendre, de faire des liens, et je ne peux pas le faire sans être en relation avec les personnes qui font partie de ma recherche. J'ai fait une recherche doctorale qui impliquait des entrevues avec un certain nombre de personnes pour raconter ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, avec une partie de ces mêmes personnes, c'est même eux qui font le travail de documentation et on fait des choses ensemble. On analyse ensemble, j'accompagne le travail. Mais ça ne peut pas être en dehors de la relation. Je ne pourrais pas... Enfin, pour moi, l'anthropologie, elle n'est... certainement pas objective, même si je cherche à être, à rendre, à créer de la connaissance ou à rendre compte des situations que j'étudie d'une manière la plus, non pas objective, mais la plus transparente que possible pour que les gens comprennent de quel est mon point de vue. Mais elle est complètement subjective, c'est-à-dire que je travaille non pas avec des objets, mais avec des sujets. Et je ne suis pas dans le parallèle de la science dure et des sciences humaines, ou de la science qui, en plus, la science dure n'est jamais dure, nous l'a bien montré Latour, et c'est ce qui fait son intérêt, ce qu'elle n'arrête pas de changer, même ce qu'on croit immuable ne l'est pas. Et dans l'humain, c'est encore plus fort. Alors ça peut être déroutant pour des gens qui ont besoin de certitude et de créer des vérités qui sont reproductibles. C'est-à-dire, voilà, les enfants soldats, ils ont fait ça à tel endroit. Dans ma recherche, ils ont fait ça à tel endroit. Donc, d'écrire les enfants soldats, c'est ça. Et moi, je suis incapable de faire ça. D'abord, les autres enfants soldats, je ne les ai jamais rencontrés. Et puis, en plus, c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. C'est que c'est des vérités à des moments donnés, etc. Mais ça n'empêche que c'est une connaissance qui est intéressante. Et c'est profondément ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est justement que je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai une petite idée, évidemment, j'ai des questions. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de laisser les gens raconter, puis de rebondir sur leurs questions, avec ma vision du cadre de recherche que j'ai posé, ou de mes questions plus lointaines. Mais ce qui est fascinant, et ce qui rend le métier intéressant, ce n'est pas de vérifier des hypothèses que j'ai faites, c'est de découvrir des choses nouvelles. Des fois, c'est les mêmes faits que j'ai déjà connus, mais de les regarder sous un œil nouveau. Pour moi, ça, c'est de la recherche et c'est de la découverte, et c'est ce que j'ai envie de décrire dans ce que je publie ou ce que je communique.
Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que l'anthropologie et puis différencier l'anthropologie de l'ethnologie ?
Alors je vais faire des bêtises, je suis très mauvaise théoricienne, je vais avoir des anthropologues qui vont me tomber sur le dos. Peut-être le plus simple entre l'ethnologie et l'anthropologie, c'est que c'est pas différent, enfin c'est différent, mais pour moi l'ethnologie ou l'ethnographie fait partie de l'anthropologie. C'est-à-dire que c'est vraiment de la description, l'ethnologie, c'est de la compréhension de l'ethnos, hein, des relations entre les gens, entre les sociétés, etc. Et l'ethnographie, c'est de l'écrire. Donc, littéralement, c'est la graphie de ça. Donc c'est d'écrire, écrire. Ce qui est passionnant, d'ailleurs, le travail d'écriture, on recrée même les choses. Quand on écrit, finalement, on n'écrit pas que ce qu'on a vu, on recrée ce qu'on a vu. Donc on est complètement auteur de cette ethnographie. Et l'anthropologie, dans ma compréhension de l'anthropologie, elle va au-delà. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser l'ethnographie, elle fait de l'ethnologie, l'ethnographie, mais elle va essayer et rentrer plus dans une analyse, dans un travail analytique du... Ça peut être à la structuraliste, c'est-à-dire de quels sont tous les points communs entre toutes les civilisations, et vouloir tirer la loi universelle, les lois universelles des civilisations humaines. Ou ça peut être une analyse beaucoup plus localisée, mais quand même un élément de compréhension dans ce que moi j'entends de l'anthropologie, c'est-à-dire de comprendre comment les gens ont été amenés à se comporter comme ils se sont comportés dans la situation, collectivement, etc. Voilà, pour moi ça amène de la connaissance, cette compréhension, et c'est la partie anthropologique. Et vraiment, les gens qui travaillent avec moi, qui ne sont pas forcément des anthropologues, qui sont des gens qui font de la loi et société ou des choses comme ça, ils le savent à chaque fois que je suis très fière d'être anthropologue. Alors qu'il y a plein de choses vraiment horribles dans l'histoire de l'anthropologie, et notamment tout l'accompagnement du colonialisme et de la justification du colonialisme. Mais pour moi, l'anthropologie, c'est vraiment une manière d'approcher le monde qui me convient énormément.
Avant de parler de votre thèse et de votre travail, pourriez-vous indiquer à nos auditeurs et nos auditrices quelle est votre formation, qu'est-ce que vous avez été avant d'être anthropologue?
Ma formation de base, j'étais pourtant j'étais une bonne élève, j'étais bonne à l'école, donc j'étais bonne en mathématiques, en physique et tout. Mais quand j'étais un peu moins bonne au moment de passer le bac, parce que j'étais aussi adolescente à ce moment-là, et je me suis beaucoup désintéressée de, de la partie qu'il fallait apprendre au lieu de comprendre. Mais au lieu de faire donc une carrière de médecin ou de mathématicien, je sais pas quoi, j'ai eu très envie d'être dans le lien avec les autres, et ce que j'avais expérimenté comme adolescente, et je suis devenue animatrice socioculturelle. Donc comme j'étais très jeune, j'ai passé le bac un an avant, j'ai pas pu rentrer à l'école d'animatrice socioculturelle tout de suite, donc j'ai fait 2 années à la faculté de psychologie pour passer du temps. J'ai appris certainement des choses, il y avait des choses que j'aimais bien, mais ensuite je suis rentrée en école de travail social, et puis j'ai passé à ce qu'on appelait le DEFA à l'époque, le diplôme d'état aux fonctions d'animateur, et j'ai travaillé comme animatrice socioculturelle très loin de là où j'habitais. J'ai travaillé dans le Soissonnais, dans un centre social où je m'occupais de tout ce qui concernait les enfants, les adolescents, et pour moi la signification de ce travail, donc je dis que c'est du travail social, en fait c'est de l'animation socioculturelle, donc j'aurais pu travailler dans un musée, etc. Mais ce qui m'intéressait, je dis toujours que c'est du travail social, ce n'était pas de vendre du loisir à des groupes de jeunes, c'était d'utiliser la vie de groupe pour apprendre ensemble. Et c'était vraiment d'organiser des cadres pour que les jeunes et les enfants soient ensemble, vivent ensemble le groupe, la dynamique et la création du lien social ensemble. Et donc, voilà. Et donc après ça, après cette expérience de travail social, j'ai eu envie de partir. Et comme je le disais à l'émission précédente, le métier le plus proche de ce que je savais faire, mais qui me permettait de partir, c'était de travailler dans le domaine de l'intervention humanitaire de protection de l'enfance. Mais avec toujours cette vision. Alors, je suis partie pour une ONG française, et puis ensuite je suis partie à nouveau pour une ONG en Haïti, etc. Mais il y a un moment où j'ai touché plus le milieu humanitaire anglo-saxon, qui était moins amateur, on va dire. Et qui, c'était un milieu qui commençait à se professionnaliser, hein, c'était dans les années 90. Et en fait, je suis tombée dans la protection de l'enfance, qui était un secteur d'intervention qui était assez jeune, qui était, puisque l'Organisation des Nations Unies qui couvre le plus la protection de l'enfance, c'est l'UNICEF. Et à l'UNICEF, la section de protection était toute jeune, elle était liée souvent à l'éducation, etc. Mais c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus de ce que je savais faire. Mais comme c'était, on était quelques années seulement après la création de la Convention internationale des droits de l'enfant, le travail à l'UNICEF et donc dans le milieu était classé selon les différentes catégories de droits de l'enfant. Et donc, ils cherchaient plutôt, parmi leurs cadres, qui étaient des administrateurs de projets en fait, des juristes, ce qui n'avait aucun sens. Parce que les gens de l'approche droit ne savaient rien de ce qu'était le travail avec des enfants, avec des travailleurs sociaux, etc. Et encore moins former des travailleurs sociaux. Mais moi, j'ai beaucoup poussé cet aspect-là. J'ai, au bout d'un moment, pas travaillé seulement toute seule, mais fait travailler avec une collègue française qui était une travailleuse sociale de longue date, qui était enseignante en travail social, etc. Et on a beaucoup travaillé ensemble en formant des travailleurs sociaux, etc. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle le social workforce, dans le milieu de la protection de l'enfance, c'est un élément essentiel, et on chérit les travailleurs sociaux, et on les forme, ça a vraiment été c'est pas ma réussite, mais c'était vraiment comme ça que j'entendais ce que devait être la protection de l'enfance, hérité de mon métier de travailleur social, et quand je le faisais en France, mon métier de travailleur social, c'était déjà ça, c'était travailler dans des quartiers, donc à Soissons, dans les quartiers HLM, et c'était le faire ensemble, le être ensemble qui était important, et pas le fait d'apprendre, je ne sais pas, à conduire du karting, ou je ne sais pas, quel truc qui était juste de la distraction pour moi. Il ne s'agissait pas de distraire les enfants, il s'agissait d'être ensemble, d'expérimenter ça comme les scouts, les guides, toutes ces expériences, le Front populaire, toutes ces choses qui se sont faites avec les francs et franches camarades, tout ça. Avait cet esprit-là pour moi. En tout cas, moi, c'est ce que je retenais de mon rôle. Et mon rôle, c'était de mettre le cadre, de pas dire aux gens ce qu'ils allaient faire dedans, mais de mettre le cadre pour qu'ils fassent à l'intérieur de ça. Ça, j'adore ça.
Et comment avez-vous trouvé votre premier emploi à l'étranger? Est-ce que c'était l'annonce ou est-ce que vous avez trouvé l'annonce? Est-ce que vous avez envoyé une lettre de motivation? Comment s'est passé l'entretien? Voilà, pour les personnes qui écoutent l'émission et qui se diraient, ah oui, c'est ça, ce que me dit, ce qui tente, oui, ce que me dit Sylvie Bodino me parle, comme
Ouais,
on
ça
savait
fait,
dire.
c'était il y a longtemps, on trouve plus de travail forcément de la même façon, hein.
Et alors, entre hier et
Je
aujourd'hui?
sais pas, parce que je cherche plus de travail aujourd'hui, mais et surtout pas avec des ONG françaises pour plein de raisons. Mais je pense que c'était une annonce, il me semble. Donc j'ai quitté mon travail pour rentrer dans une école de formation humanitaire, mais qui n'était pas du tout une formation à ce que j'ai fait, c'était une formation à la logistique. Qui se trouve à Lyon, qui s'appelle Bioforce. Et c'était bien, parce que moi j'avais un bac et j'avais même un DEFA, donc un bac plus 2, ou bac plus 3, ou même bac plus 5 en réalité. Mais bref, mais c'était une école qui pouvait avoir des gens aussi qui n'avaient pas le bac, et qui formaient des logisticiens de l'intervention humanitaire, et puis ensuite qui s'est étendue. J'étais la plus âgée, j'avais 26 ans. C'était une joyeuse année d'études, c'était 9 mois d'études, et puis après on partait sur un terrain, et puis on faisait un rapport, puis après on avait notre diplôme. Et donc j'ai appris beaucoup, alors j'ai appris la mécanique, j'ai appris à réparer des frigos, j'ai appris. Il y avait un cours qui m'était un peu plus familier, mais que j'aimais beaucoup, qui était un cours. D'histoire et de sociopolitique. Et puis sinon, on avait des tas de trucs, des trucs qui devaient être ennuyeux. Je me souviens plus trop. On en apprenait les langues. On avait aussi un gros, gros travail de groupe. C'était très joyeux. Comme mon école de travail social, ça a été très, très joyeux. Et donc, ça m'a pas appris le métier de logisticien, puisque, enfin, si, ça me l'a appris, mais je comptais pas du tout devenir logisticienne. Moi, j'avais mon métier. Et donc, j'ai cherché du travail lié aux enfants, à l'enfance. Je ne connaissais pas la terminologie de protection de l'enfance à l'époque. Parce que voilà, la protection de l'enfance en France, elle est de domaine beaucoup plus des éducateurs que des animateurs. Nous, les animateurs, on était dans le loisir, hein, quand on était en lieu. Et donc, voilà, pour moi, j'allais travailler avec les enfants. Et il y avait une ONG française qui cherchait quelqu'un pour partir au Guatemala. Et donc j'ai postulé, et comme j'avais une écriture, je crois que ce qui les a sensibilisés, c'est que j'avais eu une expérience, dans mon expérience précédente, on avait un atelier de peinture qui n'était pas à mon initiative, qui était aux initiatives des gens précédents, mais qui était extrêmement intéressante parce qu'on laissait les enfants évoluer dans ce cadre justement. Il n'y avait pas, aujourd'hui on va dessiner Mickey, mais il y avait au centre une palette de peinture, les papiers au mur, et les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc je pense que comme ils avaient un peu cette expérience, je pense que, et le fait que j'étais animatrice socioculturelle, que j'avais un métier, c'était mon travail, le travail avec les enfants. C'est une ONG qui travaillait sur le loisir avec les enfants. Pour eux, leur devise, c'était un enfant qui ne joue pas est un enfant qui meurt. Ils travaillaient avec les réfugiés au départ. Et donc je pense que ça a collé, ça les a séduits. Donc j'avais envoyé une lettre de motivation, je suis montée à Paris pour faire un entretien, et puis ils m'ont envoyée au Guatemala, et c'était un rêve. C'était de l'Amérique centrale que je connaissais pas du tout, j'ai dû apprendre l'espagnol et tout. Formidable.
C'est le moment de la pause musicale, c'est Freddy Fahada et Reality Cuts Me Like a Knife.
My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground.
I'm down.
Now what do? 'Cause reality cut me like a knife. Again, the length inside of me. Inside of me. The answer is inside of me. Inside of me.
Vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM Plus 91 FM et nous accueillons Sylvie Bodineau, anthropologue. Quels sont l'intitulé et le domaine de recherche de votre thèse, Sylvie ?
J'ai honte parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Je crois que ça s'appelle « Droit de l'enfant en praxis », ma thèse. Et le sous-titre, ça doit être, ça j'en suis encore moins certaine, mais pour dire, c'est « L'ethnographie d'un programme de démobilisation et réintégration et de soutien à la réintégration des enfants soldats en République démocratique du Congo ».
Que signifie en praxis ? Parce que là, c'est intéressant. Ah.
La praxis, elle, pour moi, pour le dire simplement, elle est dans la pratique et l'intention. C'est-à-dire, c'est c'est d'abord une analyse de pratique, mais c'est pas une analyse des pratiques toute seule. C'est une analyse des pratiques en lien avec l'intention de ces pratiques-là. Et donc la définition la plus simple que je connaisse, qui n'est certainement pas la plus raffinée, hein, si vous regardez dans des domaines scientifiques, ça doit être beaucoup mieux défini que ce que je vais en dire là, mais pour simplifier, c'est ce qui lie l'intention et les pratiques. Comprendre les pratiques en incluant leur intention.
Pourquoi avoir choisi ce domaine de recherche ?
Bah d'abord parce que j'avais comme on l'a un peu évoqué, j'ai une carrière humanitaire de protection de l'enfance longue auparavant, qui a été un peu dans le travail avec donc cette première ONG que j'avais trouvée, mais ensuite dans un travail de consultante, qui était extrêmement important pour moi comme positionnement, parce que je faisais partie des équipes et je n'en faisais pas partie. Donc je fais partie de la famille. J'ai des tas de gens que j'appelle collègues qui n'ont en réalité jamais été mes collègues parce que j'étais consultante pour leur organisation. Quelquefois, j'ai eu quelques contrats où en tant que consultante, j'ai aussi travaillé en équipe. J'étais consultante sur les questions de protection de l'enfance. Quelques années après avoir travaillé en ONG française, que j'ai abandonnée parce que, sincèrement, quand je revenais d'une mission avec une ONG française, j'étais bénévole et j'allais rencontrer l'assistante sociale du coin pour savoir quels étaient mes droits au RMI parce que j'étais bénévole, puis j'avais pas un rond. Et je faisais un travail où je gérais, le dernier travail pour une ONG française que j'ai fait, c'était à Madagascar, je gérais un budget de 4 millions d'euros et j'étais payée des peanuts, rien. J'étais bénévole. Donc j'ai décidé d'arrêter ça avec l'espoir que je pourrais faire autrement. Et le travail de consultante, pour moi, c'était la solution. C'est-à-dire que je me faisais payer pour être consultante et ce que j'appelle la vraie consultation. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'humanitaire avec un statut de consultant qui correspondrait finalement à un statut de vacataire dans la fonction publique en France. On est libre, c'est bien, on a un contrat qui est déterminé, libre, etc. Mais enfin, on n'est aucune couverture sociale, aucune assurance d'emploi, etc. Mais ce que j'aimais dans ce travail de consultante, c'était vraiment qu'on me consultait. C'est-à-dire qu'on me demandait mon avis pour soit analyser une situation, soit évaluer un programme qui existait, soit former des gens, soit etc. Faire une réflexion stratégique, etc. Donc j'ai fait ça longtemps. Et évidemment, dans cette pratique-là, et notamment dans la pratique de la guerre, etc., avec cette approche dont je parlais tout à l'heure, cette approche qui a été décidée par les Nations Unies, par l'UNICEF, de s'appuyer sur les droits de l'enfant pour tout leur travail de défense sur la nutrition, sur la santé des enfants, etc., s'appuyer sur les catégories des droits de l'enfant. Une section qui s'appelait auparavant la section de protection des enfants, des mineurs en circonstances spécialement difficiles, est devenue la section protection, et qui se basait sur une approche de droit de l'enfant. Et donc, en fait, dans toute cette carrière, évidemment qu'en tant que consultante, j'avais le droit de me poser des questions, c'était même mon travail de poser des questions aux praticiens, mais je n'avais pas forcément l'espace. J'avais le droit de poser des questions qui aboutiraient à des recommandations, puisque c'est ce qu'on me demandait, pour pouvoir continuer le travail. J'avais pas d'espace de poser des questions qui n'avaient pas d'application après, ou pas forcément d'application après, qui étaient des questions de production de connaissances. Et donc, quand je suis rentrée dans la position de chercheuse anthropologue sur cette question, droit de l'enfant en praxis, c'était me dire, voilà, ce qui justifie, avant ma thèse, j'ai fait un mémoire de maîtrise où j'ai une publication française qui s'appelle, je suis encore très mauvaise, je crois que ça s'appelle Enfant soldat, vulnérabilité et puissance d'agir, ou quelque chose comme ça, ou puissance et vulnérabilité. Je sais même pas les titres de ce que j'écris.
On a qu'à taper sur.
Oui, taper mon nom sur un moteur de recherche. C'est publié aux presses de l'Université Laval. Et c'était mon mémoire de maîtrise, et j'ai fait une recherche, donc là, pas sur le terrain, parce que j'en sortais juste du terrain. J'ai travaillé sur les documents qui étaient écrits sur les programmes de démobilisation d'enfants soldats au Congo. Et ce qui en ressortait très clairement, c'était que tout ce qui justifiait l'existence de ces programmes de la part des acteurs de l'humanitaire, c'était les droits de l'enfant. C'était les principes des droits de l'enfant, les principes des droits de l'homme, etc. Donc j'en ai déduit que ce qui se passait dans un programme de démobilisation et de soutien à la réintégration des enfants soldats, qu'on appelle enfants associés aux forces et groupes armés dans le jargon humanitaire, c'était des droits de l'enfant en pratique, mis en pratique, puisque c'était pas la théorie juridique, on n'allait pas, on n'allait ni au tribunal, ni dans des instances de droits de l'homme en parler, mais on mettait en pratique des principes de droits de l'enfant. Et donc, voilà, suivant le travail d'une anthropologue qui est décédée maintenant, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sally Engelmery, qui a étudié les droits de l'homme, l'anthropologie des droits humains, de manière très brillante et très intéressante. Voilà, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était notamment ce qu'on appelle la vernacularisation des droits, c'est-à-dire le fait de s'approprier, comme la vernacularisation langagière, hein, un langage vernaculaire, c'est un langage local, eh bien c'est s'approprier localement des droits, c'est les transformer, les mettre en vie, les mettre en pratique éventuellement. Et donc voilà, mon idée c'était comment examiner la vernacularisation des droits de l'enfant, et donc, ou autrement dit, les droits de l'enfant en pratique au pluriel, et en praxis, parce que c'était les pratiques, et les intentions qui conduisaient ces pratiques-là. Les intentions sous-tendues, qui n'étaient pas forcément écrites. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire ? Par exemple, une approche médico-légale, où les enfants qui sont amenés à être impliqués dans la guerre, on les considère comme déviants, malades, et qu'on va les soigner. Ou d'autres nous demanderont de leur faire un lavage de cerveau. Des demandes particulières, mais donc voilà l'intention de chercher les droits de l'enfant en praxis, c'était ça, c'était vraiment de comprendre, en fait c'était de comprendre des pratiques et de pouvoir poser toutes les questions, enfin une grande partie des questions que je m'étais posées pendant ma pratique et que j'avais pas eu dont je n'avais pas eu l'espace ni les outils pour y répondre. J'étais pas anthropologue, j'étais juste une travailleuse sociale qui avait une expérience de plus en plus grande en protection de l'enfance et qui posait des questions et donnait des recommandations. Donc l'intention c'était de prendre du recul et d'avoir ce luxe avec des subventions canadiennes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais avec le luxe de ne pas être obligée de travailler et de pouvoir me poser des questions et écrire dessus.
Qu'étudie-t-on dans la section anthropologie à l'université ? Qu'est-ce qu'on apprend ?
Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire.
Des méthodes ?
Oui, on apprend un cadre théorique. On apprend l'histoire de l'anthropologie. On apprend les différentes approches, les différents cadres théoriques qui peuvent être vraiment très, très différents. On apprend. On a du travail de méthodologie, effectivement. Mais moi, je suis arrivée en anthropologie. Alors, j'ai eu deux expériences d'études d'anthropologie. Une première très tôt, avant ça, un moment où j'étais revenue du Guatemala et d'Haïti, j'avais du temps en fait. Donc, je me suis inscrite à l'université Paris 7, dans un département d'ethnologie, des sciences et des religions qui n'existe plus. À Paris 7, à Saint-Charles. J'ai fait, mais je ne suis pas allée au bout de ce master, de la maîtrise à l'époque. Enfin, je suis allée au bout, mais sans finaliser complètement. Et ce département a disparu, en plus, à l'occasion de la grande réforme. Donc, mais j'avais déjà approché l'ethnographie, et j'avais déjà appris, alors là, des choses beaucoup plus classiques, c'est-à-dire l'histoire des Américains du Sud et du Nord, l'histoire ou l'anthropologie du quotidien, il y avait des gens qui travaillaient sur les arts ou des choses comme ça, donc écouter des profs en fait écrire, mais aussi définir un projet de recherche. Et à l'époque j'avais un peu esquissé un premier projet de recherche sur là où j'habite, mais en fait ensuite quand je suis arrivée donc à l'université Laval au Québec, je suis rentrée avec des équivalences pour passer la maîtrise, donc le master, ce qu'ils appellent la maîtrise là-bas. Et donc j'ai suivi des cours, mais qui étaient plus des travaux collectifs en fait. J'ai suivi deux cours en premier, un sur le local et le global, à travers l'alimentation. Et puis le deuxième, je ne me souviens même plus trop. Mais j'ai surtout travaillé avec l'accompagnement de ma directrice de recherche, sur la thématique de ma recherche, sur donc tout l'environnement théorique et l'approche épistémologique de cette recherche. Donc j'ai appris en faisant, avec l'accompagnement de ma directrice de maîtrise, avec qui j'ai continué, qui a été ma directrice de thèse ensuite. Et en fait, ensuite, en thèse, j'ai aussi passé j'ai suivi des séminaires. Je crois qu'en maîtrise, justement, j'avais un séminaire sur... il y avait le local et global, et puis il y avait quelque chose autour... Ah, j'ai oublié. Il y a quelque chose autour de la... C'était un prof d'Asie du Sud-Est, mais là on travaillait sur l'établissement d'une problématique de recherche, je crois. Et ensuite, j'ai travaillé sur une thématique qui était... ah, j'ai oublié le mot, comment on appelle ça. L'ontologie, la recherche ontologique, la perspective ontologique de la recherche. Et puis, j'ai travaillé sur un thème particulier qui était, je sais plus, sur les migrants, quelque chose comme ça. Mais j'ai surtout préparé mon sujet de thèse, etc., donc à la suite de mon sujet de maîtrise. Et donc, voilà, fait beaucoup de recherches théoriques sur... j'avais des travaux théoriques à rendre sur la jeunesse au Congo, qu'est-ce que c'était que les droits de l'enfant et les approches anthropologiques des droits de l'enfant, etc., qui m'ont permis d'établir mon projet de recherche, de le présenter. C'est ça qu'on apprend, enfin que moi j'ai appris en anthropologie, c'est à la pratiquer finalement, mais avec un accompagnement extrêmement solide, encourageant, soutenant. Des professeurs au Canada, et sans vouloir dire de mal, des professeurs français. Je suis pratiquement sûre que j'aurais jamais trouvé, ou rarement trouvé, cet accompagnement en France, et pas seulement à la cause de la qualité des professeurs, mais à la cause de la manière dont l'université est organisée en France. Et juste pour finir la parenthèse là-dessus, et je ne veux pas m'étendre plus que ça, pas me faire des ennemis non plus, mais j'ai choisi de partir étudier au Canada, parce que en France, si j'avais voulu étudier, il aurait fallu que je passe rentrer dans une université. Au niveau de maîtrise, il aurait fallu que je passe un système de validation d'expérience qui était plus compliqué que de recommencer à zéro. Alors qu'au Canada, en présentant mon dossier, j'étais acceptée. Avec les acquis de ma précédente inscription à l'université Paris 7, et puis surtout avec mes acquis professionnels, et j'étais accompagnée avec une ouverture, avec des professeurs qui ont le temps et la volonté de répondre aux emails qu'on leur envoie, même s'ils ne vous connaissent pas. Et de vous accompagner dans votre projet. Donc c'était un univers fantastique d'accueil, en plus avec de la pensée anglo-saxonne, pas seulement francophone, franco-francophone, mais avec le Québec, avec le luxe d'être l'anglo-saxon à la française quand même. Donc c'était un très beau cadre d'apprentissage.
Est-ce que l'université fait l'anthropologue? Autrement dit, a-t-on besoin d'un diplôme pour être reconnu en tant qu'anthropologue?
À ma connaissance, oui. comme je le disais, hein, c'est la pratique aussi qui fait l'anthropologue, mais c'est l'université qui vous permet et qui vous accompagne dans cette pratique, à mon avis, qui fait une partie de vos... On peut être anthropologue avant ou avoir des pratiques très proches d'anthropologie, de vivre avec ou de vivre dans une situation particulière, d'avoir un regard dessus, de prendre du recul dessus. Mais l'université apporte deux choses, moi, a apporté deux choses. D'abord, l'ouverture à des auteurs que je n'étais pas capable de... rencontrer, de trouver ou de comprendre seul. Donc, il m'a introduit à des domaines littéraires, enfin pas littéraires, mais de littérature anthropologique, à l'histoire de l'anthropologie, etc., avec des gens qui l'aimaient, qui la vivaient. Et j'ai été accompagnée en plus, bon, peut-être parce que j'avais pas 20 ans, quoi, j'en avais 40 et quelques, 45. Donc, d'être accompagnée tout de suite par ma directrice de maîtrise, de communiquer, de publier. Donc, j'ai publié mon mémoire de maîtrise, ce qui fait que ensuite j'ai eu des subventions importantes pour mon doctorat. Mais donc, il y a ça, mais il y a aussi, malgré tout, même si j'en fais pas un culte, l'épreuve de la thèse. C'est une épreuve terrible parce qu'il y a une espèce de mythologie sur le poids de la thèse, etc., de ce qu'elle doit être. Mais en même temps, avec le recul que j'ai, je me rends compte, et avec la rencontre de tous les professeurs que je connais, chercheurs, on a rarement autant de temps et autant d'espace pour la recherche que quand on fait sa thèse. Alors, avec le luxe, à l'Université Laval, au Québec, on n'est pas limité à 4 ans pour terminer son doctorat. Moi, personnellement, j'ai mis 8 ans pour le faire. Avec un tas de circonstances au milieu, tant qu'on est inscrit et qu'on rend compte de la progression de ses travaux, etc., on est accepté. En tout cas, c'était encore le cas quand je l'ai fait. Mais avec cet exercice de conduire les choses depuis le début, depuis l'énoncé du projet de recherche, la recherche de financement éventuel, la demande d'approbation éthique, jusqu'à l'écriture et la défense de son travail, et avec le grand luxe, quand vous faites une défense de thèse, c'est une épreuve. Ça peut être un peu vous mettre dans un état anxieux un peu, sauf que vous avez le grand luxe d'avoir, moi dans mon cas c'était 5 personnes qui ont lu 400 pages de votre thèse et qui l'ont lu en vrai pour vous poser des questions, pour entamer une conversation avec vous sur le sujet, ce qui est passionnant en fait. Après, les gens n'ont pas le temps de lire tout ça. On écrit des articles et des chapitres et c'est tout. Donc c'est pour moi, on apprend, oui, à être anthropologue et surtout à rentrer dans un... à comprendre. Moi, je ne comprenais rien, je ne savais rien de ce qu'était le milieu scientifique, ce que c'est que de publier, de communiquer. C'était drôle, c'est comme quand j'étais enfant, j'étais rentrée au lycée sans savoir que j'allais passer un bac après. Mais j'étais rentrée à l'université sans savoir ce que c'était qu'un assistant de recherche, tout ça. Et j'avais des profs qui ne m'expliquaient pas, qui me disaient, je ne sais pas ce que c'est. j'ai appris tout ça. Être dans un milieu qui vous apprend les choses en les faisant, c'était formidable.
C'était le deuxième numéro du Fil du Fer avec Sylvie Baudinon. Nous aurons un troisième numéro pour parler et prolonger son travail en tant qu'anthropologue en Afrique.